Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici R. Dubois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Lucandiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au studio, nous sommes en compagnie de Sonia Rochatte. Bonjour.
Bonjour.
Sonia Rochatte, donc, tu es animatrice du contrat local de santé du Diwa, au sein de la communauté de communes du Diwa, donc. Et tu es ici pour nous annoncer deux rendez-vous. Le premier qui va avoir lieu le 17 octobre, et ce sera lundi prochain, donc de 9h à 11h30. Ça se passera à l'espace social et culturel du Diwa, place de l'Évêché à Die. Alors, c'est un rendez-vous qui s'adresse avant tout, pourquoi précisément ?
Eh bien, c'est une invitation à venir parler de santé mentale. Ça fait plusieurs années, dans le cadre du contrat local de santé, qu'on travaille cette question de la santé mentale dans le Diwa. Et là, on a envie de passer un cap de plus en mettant en place un dispositif particulier pour parler de la santé mentale qui s'appelle un conseil local en santé mentale. Et on invite tout le monde à venir en parler le 17 octobre au matin. L'idée, c'est en présence d'acteurs qui sont centraux dans les prises en charge en santé mentale sur le territoire, c'est de parler de ce qui se fait déjà, des choses qui sont en place, des états des lieux qu'on est en capacité de faire aujourd'hui sur les besoins et les réponses à ces besoins en matière de santé mentale, et aussi d'échanger sur les retours des partenaires, des usagers, des usagères, sur les besoins et les attentes en matière de santé mentale.
Alors, c'est un moment porté par la communauté de communes et le centre hospitalier Drôme Vivarais, donc spécialisé en psychiatrie. Vous dites donc il existe déjà beaucoup de choses sur le territoire, mais est-ce que suffisent-elles au point de créer ce conseil aussi local pour peut-être déceler encore d'autres manquements ?
Oui, alors on fait déjà beaucoup de choses, mais je dirais il y a peut-être deux axes à améliorer et sur lesquels il faut qu'on appuie. Le premier, c'est on sait qu'aujourd'hui l'offre de soins ne répond pas complètement aux besoins en matière de santé mentale sur le territoire. C'est notamment lié aux difficultés de recrutement dans le secteur de la santé mentale. Mais c'est donc important qu'on ait ces temps d'échange pour pouvoir faire le lien entre les besoins et l'offre. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est peut-être aussi d'élargir un petit peu cette question de la santé mentale et de la décentraliser de la question de la psychiatrie, puisque en fait la santé mentale c'est une question qui s'adresse à tout le monde, hein, pas que les usagers de la psychiatrie. Et l'objectif de ce conseil local en santé mentale, c'est aussi de faire prendre conscience à tout le monde que la santé mentale, ça concerne tout à chacun, que c'est l'affaire de tout le monde, et que les ressources pour aller bien en matière de bien-être et de santé mentale, c'est pas que la psychiatrie, c'est aussi des choses du quotidien qu'on peut mettre en place, et la santé mentale, c'est tout ce continuum qui va de ce que je fais dans mon quotidien pour aller bien à comment je suis pris en charge quand vraiment ça va pas.
La parole est peut-être un élément central de cette démarche aussi, ces rendez-vous. Et avant même de proposer ces deux rendez-vous, vous avez certainement ausculté ou diagnostiqué ce qui existait, ce qui se passait sur le territoire. Ce sont ces constatations qui vous ont amené à proposer ces réunions ?
Ouais, tout à fait. Alors, via le contrat local de santé, on a pu, par la base de certains diagnostics et puis aussi de tous les temps de travail et partenariats qu'on mène, on a pu affiner le diagnostic et des besoins de santé du territoire qui, on le sait, sont particuliers en termes de santé mentale. On sait qu'on a des personnes qui vivent sur le territoire qui sont en moyenne plus fragiles sur les questions de santé mentale. On le voit par exemple sur les affections de longue durée, des personnes qui sont en affection de longue durée sur le territoire pour des motifs psychiatriques sont en moyenne plus nombreuses que dans d'autres territoires. Au niveau de l'offre de soins, on a aussi un groupe de travail partenarial, donc avec beaucoup de partenaires du territoire, qui nous permet d'échanger sur cette question et de se rendre compte de là où il y a une bonne réponse aux besoins et là où il y a une moins bonne réponse aux besoins. Donc oui, on a tout ça et c'est aussi ça qu'on veut partager le 17 avec les personnes, mais qu'on veut aussi affiner et actualiser et faire vivre comme diagnostic.
Je reviens sur la parole, c'est un élément central aussi, peut-être une phase avant la psychiatrie, c'est celle qui permet aussi de libérer beaucoup de tourments, notamment. Donc, qu'est-ce qui est proposé aussi par rapport à la parole? Parce que la psychiatrie, vous avez fait le constat d'un manque de services, mais on en reparlera un peu plus tard. Mais la parole, qu'est-ce qui permet actuellement de pouvoir remédier certaines personnes sur leurs problèmes mentaux, par exemple?
Eh ben oui, c'est tout à fait. C'est tout ce continuum dont on parlait entre les ressources du quotidien, dont la parole, dont plein d'autres choses. Ça peut être des activités créatives, ça peut être le chant, le lien. Et c'est d'ailleurs une action qu'on a mise en place avec plein de partenaires du territoire, qu'on a menée fin juin, le 29 juin dernier sur le territoire, qu'on appelait Accordons-nous, où en fait, officiellement, on parlait pas de santé mentale, mais l'idée, c'était bien ça, c'était de montrer quelles sont les ressources dans lesquelles chacun, chacune peut puiser pour aller bien, qui sont propres à chacun, chacun a ses recettes à soi, et qui permettent de se faire du bien. Alors la parole, clairement, en est une, via les liens aux autres, via l'expression. Et il y a d'autres ressources, le lien à la nature, le lien à son intérieur à soi. Et effectivement, ça, c'est un gros axe de ce qu'on veut mettre en place en termes de santé mentale sur le territoire. C'est aussi montrer que la santé mentale, ça se distille dans toutes ces petites choses du quotidien.
À l'heure actuelle, dans ce domaine lié à la parole et par rapport aux activités proposées, est-ce qu'elles suffisent actuellement ou alors faut-il peut-être encore plus développer cet aspect-là de la prise en charge aussi humaine et des propos que certains souhaitent exprimer?
En tout cas, ce qu'il faut qu'on développe, c'est la facilité à parler de santé mentale. Et ce qu'on appelle dans le langage jargonneux, déstigmatiser la santé mentale, puisqu'il y a encore parfois une vision du fait que la santé mentale, ça relève, en fait, c'est la question de la maladie mentale. Or, non, la santé mentale, c'est aller bien, et aller bien, c'est une question que tout le monde se pose, et c'est une question qui concerne tout le monde. Je crois que la période du confinement, de la crise sanitaire, a montré qu'en fait, cet enjeu d'aller bien et de prendre soin de sa santé mentale, ça concernait tout le monde. Alors je dis je crois, mais c'est d'ailleurs des éléments qui ont été mis en évidence de façon nationale, hein, que les gens avaient pris conscience que il faut qu'ils prennent soin d'eux pour aller bien. Et voilà, et donc c'est vraiment une démarche qu'on doit soutenir et pour lesquelles, pour le coup, les ressources sont propres à chacun, encore une fois, et elles sont autour de soi. Donc il suffit de savoir en parler, de pouvoir identifier, de pouvoir en parler avec les autres aussi. Et là-dedans, là-dessus, la démarche de parler de santé mentale de façon publique et officielle, ça a son importance.
Vous précisez aussi, nous avons toutes et tous une santé mentale et nous sommes toutes et tous concernés.
C'est ça.
Voilà. Et donc, pour vous, il y a peut-être aussi des graduations, ou alors comment peut-on dire, des aspects plus ou moins urgentissimes, peut-on dire ?
Oui, après, ils sont propres à chacun. On sait que plus les gens sont conscients du fait qu'ils doivent travailler à leur bien-être et à aller bien, plus ils sont en capacité d'aller chercher les bonnes ressources. Donc ça, c'est un message qu'on veut faire passer, qui est vraiment de l'ordre de la prévention. On sait aussi que plus les gens sont formés à détecter chez les autres, chez leur père, des situations de souffrance psychique. Et plus aussi, ça permet d'intervenir en amont. Et ça, c'est aussi tout l'enjeu lié à la déstigmatisation, à aussi ce qui se développe en ce moment, des formations au premier secours en santé mentale. Donc, sur le modèle des formations au premier secours, l'idée, c'est de pouvoir identifier pour soi et pour les autres des premiers signes de souffrance et de pouvoir intervenir. Et puis, le troisième volet, bien sûr, c'est de pouvoir orienter les personnes vers un parcours de soins qui est adapté en fonction de leurs besoins et de leur niveau de souffrance.
Il y a deux secteurs hein, dans cette problématique, des personnes qui sont plutôt en chronique et puis d'autres qui sont dans une phase ou un épisode de leur vie. Alors il y a un discernement entre les deux déjà par rapport à ce qui est proposé en service.
Alors oui, alors moi après je suis pas professionnelle de la santé mentale, donc je m'aventurerai pas trop sur ce terrain, mais bien sûr que les parcours de soins sont pas les mêmes pour une personne qui est dans une phase aiguë de crise ou pour une personne dont une pathologie se chronicise et qui nécessite un suivi au long terme. Les soins spécialisés en psychiatrie ils ont pour objectif d'identifier les besoins en fonction de l'état dans lequel se situe la personne et de proposer un suivi qui soit au long cours et qui permette aux crises de diminuer et aux pathologies de ne pas se chroniciser. Après, la psychiatrie, c'est une discipline complexe quand même, avec qui nécessite des suivis, des accompagnements sur le long terme, puisque avec effectivement des phases aiguës et puis des phases plus... voilà. Mais je ne m'aventurerai pas plus parce que c'est pas mon cœur de métier, là, pour le coup.
Je reviens à vos propos par rapport aussi à une moyenne supérieure sur les autres territoires de personnes qui ont des souffrances mentales. Comment peut-on l'expliquer ? Est-ce que c'est le cadre qui permet peut-être pour ces personnes de mieux se ressourcer sur ce territoire ? Comment peut-on l'expliquer ?
Je pense qu'il y a des raisons qui sont spécifique à tous les territoires ruraux, en fait, avec des problématiques liées à l'isolement de certaines personnes, à des personnes qui sont donc en plus grande fragilité parce qu'elles sont isolées, parce qu'elles sont moins mobiles et que du coup elles accèdent moins facilement à des soins ou à de la prévention. Donc ça, c'est des choses qui sont marquées ici dans le Diois. Et puis après, il y a d'autres explications, par exemple le niveau de précarité. On est un territoire avec un taux de pauvreté important et on sait qu'il y a des liens entre les situations de précarité et la vulnérabilité aux troubles de santé mentale. Donc ça, c'est une explication. Il y a aussi, bien sûr, la coloration du territoire, de peut-être être un lieu où beaucoup de gens viennent d'autres territoires, éventuellement avec des situations de parcours de vie où ils ont besoin d'un peu de répit ou de se ressourcer. Et donc effectivement, on peut imaginer que peut-être il y a des personnes fragilisées qui arrivent aussi sur le territoire, bien qu'on n'ait pas vraiment de chiffres là-dessus. Mais en tout cas, il y a certainement une conjonction de tous ces facteurs-là. Ouais.
Les territoires du Haut-Diois sont aussi concernés. Et quand vous parlez de distance, d'éloignement, c'est le cas pour beaucoup de villages et peut-être même de fermes isolées. Est-ce que justement, il y a une recrudescence de ces angoisses, peut-être, au sein de certaines populations ?
Alors,
notamment du fait du Covid aussi, qui a appuyé...
Alors là, on a des données qui sont nationales, hein, qui effectivement témoignent de l'augmentation des besoins d'accompagnement en santé mentale suite à la crise sanitaire. Au niveau du Diois, on n'a pas de données statistiques qui appuient ça, mais en tout cas, les constats qui sont faits au niveau national sont faits aussi à l'échelle du Diois, que ce soit par les partenaires qui travaillent avec les jeunes, qui constatent chez les jeunes des situations de souffrance psychique nombreuses et plus importantes depuis la crise sanitaire, que ce soit auprès des partenaires qui travaillent auprès des agriculteurs, qui constatent aussi que les situations de mal-être sont nombreuses et importantes dans cette catégorie de population, aux personnes qui travaillent auprès des personnes âgées, qui sont aussi une population vulnérable. Donc oui, on fait un constat, on va dire, qualitatif et de terrain qui confirme cette fragilisation psychique de la population depuis la crise sanitaire.
Alors, on aborde le programme aussi de ce matin du lundi 17. Et donc, il y a avec vous, vous allez faire un point sur les besoins de santé qui fonctionnent ou ce qui ne fonctionne pas sur le territoire et de maintenir ou améliorer la santé mentale de tous les habitants, puisque ça concerne tous. Et là, vous serez là aussi pour recueillir des idées ou des projets ou des possibilités d'agir pour améliorer cette situation. Comment envisagez-vous justement cette prise de rendez-vous? Ça se passera où précisément d'ailleurs?
Le 17?
Oui, à l'espace social, ouais. À la salle communautaire.
Le 17, hein. Ça se passe à l'espace la salle communautaire de l'espace social. Et l'idée, c'est qu'il y ait les deux. C'est qu'il y ait un temps où on puisse donner des informations sur ce qui se passe actuellement et ce qui est fait. Et les mesures qui sont prises aussi pour essayer de répondre aux besoins. Et qu'on ait aussi, bien sûr, un temps d'échange et de recueil des attentes qui puissent alimenter les actions qui seront ensuite menées dans le cadre de ce conseil local. En santé mentale.
Donc vous précisez, c'est pour améliorer la situation. Là, actuellement, elle est assez dramatique, peut-on dire. Et c'est dû à quoi? Sans compter, hormis des personnes qui se sont retrouvées mal, qu'est-ce qui fait que ça ne puisse pas s'accorder en quelque sorte?
En fait, c'est un double effet. Il y a un effet de l'augmentation des besoins, on vient d'en parler, donc plus de personnes avec des besoins d'être suivies. Et de l'autre côté, une difficulté à maintenir une offre de soins en santé mentale, qu'elle soit libérale, hospitalière, qu'elle soit assurée par des médecins psychiatres, par des psychologues ou par des infirmiers. Parce que, comme dans toutes les professions de santé, on a des difficultés aujourd'hui à ce qu'il y ait suffisamment de professionnels de santé sur les territoires pour répondre aux besoins.
Et ça, c'est une mission que s'est donnée la communauté de communes du Diois, justement, pour essayer de trouver des solutions.
Alors, pas toute seule, la communauté de communes du Diois, via le contrat local de santé, elle cherche surtout à organiser la concertation avec les acteurs de l'offre de soins et pour la santé mentale, en premier lieu, le centre hospitalier de Romilly-Varay, pour travailler ensemble à répondre aux besoins. Mais l'enjeu, et c'est ce que porte le contrat local de santé et ce que va porter le conseil local en santé mentale, c'est d'assurer une bonne concertation des partenaires pour, dans la mesure du possible, faire coïncider les besoins et la réponse aux besoins.
Il y a dans les partenaires, les interlocuteurs aussi, avec qui vous serez amené à travailler, que ce soit les services de soins ou sociaux. Donc là, vous êtes en préparation d'une conjugaison à prévoir pour l'avenir.
Eh bien, ce conseil local en santé mentale, il sera composé de plusieurs petites instances de travail. Alors déjà, il sera piloté par les porteurs de cette dynamique, en premier lieu desquels le centre hospitalier de Romilly-Varay et la communauté de communes, mais il y aura aussi l'agence régionale de santé, l'hôpital de Die, des représentants des professionnels libéraux du territoire qu'on associera à cette démarche. Et puis après, sur le travail concret, on aura des temps de travail avec une fonction qu'on appellera certainement observatoire, l'idée étant justement d'aller recueillir l'état des besoins et de la réponse aux besoins sur les différents sous-territoires du Diois. Donc on essaiera de se déplacer dans les sous-territoires. Et puis il y aura aussi sûrement des espaces de travail pour porter des projets ou des actions spécifiques sur certaines thématiques. Notamment, on devrait recommencer à travailler, à proposer une journée, comme on l'a fait le 29 juin dernier, à destination du grand public pour mettre l'accent sur les ressources pour prendre soin de sa santé mentale.
D'ailleurs, ce type de réunion tendrait-elle à se développer peut-être au mensuel?
On verra, je pense que chaque espèce de travail aura son rythme, mais c'est aussi un travail qu'on va faire le lundi matin, c'est de recueillir les envies d'implication et de travailler sur des projets pour les mettre ensuite en musique et les mettre en place.
Cette réunion du 17 octobre s'adresse à quel public ? À tous les publics ?
Oui, alors on a volontairement ouvert à tout le monde, donc que ce soit des partenaires qui travaillent de près ou de loin dans le champ de la santé mentale, des élus du territoire ou des habitants du territoire, des habitantes du territoire. Justement, l'idée, c'est qu'on puisse partager avec la diversité des profils qui seront là les constats, les informations et échanger aussi sur la base de cette diversité.
Il y a des problématiques aussi sur le territoire. On parle de violences parfois aussi qui ont été encore plus accentuées avec cette période du Covid. Précédemment à ce 17 octobre, vous avez donc effectué des rendez-vous, des prises de tour de table, j'imagine, pour essayer de recueillir un maximum de données.
Oui, en fait, ça fait plusieurs années dans le cadre du contrat local de santé qu'on travaille sur cette question de la santé mentale. Et notamment, la concertation en matière de santé mentale existait avant le contrat local de santé sur le territoire. Il y avait un réseau d'acteurs assez dynamique qui a de façon assez historique été organisé sur le territoire. Et ça a été repris dans le cadre du contrat local de santé depuis plusieurs années. Et on avait notamment, là, jusqu'à ce mois-ci, un groupe de travail qui se réunissait tous les mois pour parler santé mentale. Donc oui, on a déjà des éléments de diagnostic et des projets en cours à partager.
Vous parlez des services de soins, des collectivités, mais le monde associatif, en quoi est-il aussi impliqué dans cette démarche ?
Alors le monde associatif, il est complètement impliqué dans cette démarche, que ce soit les associations de soutien aux femmes victimes de violences, que ce soit les associations de soutien aux victimes en général, que ce soit des associations dans le secteur de la parentalité, dans le secteur de l'addictologie. Donc bien sûr, les associations sont complètement associées à cette démarche. Et peut-être, ça me permet de faire le pont avec l'événement du 21 octobre, puisque le deuxième temps fort de la semaine prochaine, ce sera l'événement du vendredi soir, donc à 17h15, le 21 octobre, où là, on va faire un petit focus sur la question de l'éco-anxiété ou de la question de la santé mentale face aux enjeux climatiques. Et on propose là une conférence à destination du grand public sur cette question de prendre soin de soi et de ses émotions face aux enjeux climatiques. Et j'en parle à ce moment parce que on aura justement une participation des associations du territoire et des associations locales pour co-animer ce temps de conférence participative.
On peut préciser que ce sera Emmanuel Chemina, écothérapeute, qui animera en quelque sorte cet atelier.
Oui, alors en fait, on co-organise l'événement à trois, donc le Conseil local en santé mentale, l'IREPS, l'Institut régional d'éducation et de promotion de la santé de la Drôme, et Emmanuel Chemina, qui est une professionnelle qui s'est spécialisée sur ces questions d'éco-anxiété et de gestion des émotions face aux enjeux climatiques. Donc on a imaginé cette conférence à trois, et interviendront aussi lors de cette conférence d'autres acteurs, notamment Écologie au quotidien, qui interviendra pour parler de l'engagement collectif et du militantisme autour de ces questions des enjeux climatiques ou encore d'autres acteurs qui viendront parler de la reconnexion à la nature. Magali Gray qui viendra parler de la reconnexion à la nature notamment. Voilà, il y aura des petits ateliers aussi qui permettront d'illustrer cette question de façon avec des personnes présentes.
Le terme écothérapeute est-il un néologisme ?
Oui, en tout cas, c'est un champ disciplinaire qui se développe en écho à ce qu'on constate chez beaucoup de personnes, d'une forme d'anxiété, de dépression, en tout cas de problèmes de santé mentale qui sont liés spécifiquement à cette conscience des enjeux écologiques et des grands bouleversements que va vivre notre planète et des répercussions qu'il va y avoir sur les humains. Et bien sûr, on se rend compte que ces problématiques-là sont devenues un sujet en tant que tel dans le champ de la santé mentale.
cette réunion, cette conférence participative est ouverte à toutes et à tous, oui. J'imagine. Il y aura des ateliers également. Alors, en quoi consisteront-ils ?
Ben c'est ça, en fait. Il y aura donc, c'est effectivement ouvert à tous et toutes. Et il y aura un temps... pour poser le contexte, rappeler ce que c'est cette question de l'éco-anxiété, d'où ça vient, comment on y répond, comment on commence à y travailler. Et on a prévu ensuite des petits ateliers où il y aura des personnes qui pourront témoigner de comment on se met en mouvement et on réagit dépasser cette situation d'éco-anxiété et quelles ressources, là aussi, on est sur la question des ressources, quelles ressources on va chercher pour faire face. Et les ressources, elles peuvent être multiples, ça peut être la reconnexion à la nature, ça peut être la gestion de ses émotions, ça peut être l'engagement dans des collectifs. Et donc, c'est ça qu'on veut mettre en lumière. C'est face à ce constat et à ces nouvelles problématiques de santé mentale qu'on constate, comment on se met en mouvement, comment on trouve les ressources.
L'éco-anxiété, c'est un phénomène récent ou alors est-ce qu'il y a eu d'autres déclinaisons antérieurement, mais qu'on ne nommait pas ainsi ?
Alors là encore, hein, moi je ne suis pas professionnelle de la question, je vous invite à venir le 21 parce que c'est ça, on en parlera en début, d'où ça vient et comment ça a été travaillé. Ce qui est sûr, c'est que ça fait quelques années que le phénomène en termes de prévalence chez dans la population prend de l'ampleur et que donc de plus en plus de professionnels cherchent à le caractériser, à travailler et à réfléchir à comment accompagner les personnes qui vivent ces situations de souffrance-là.
Il y aura peut-être d'autres rendez-vous par la suite avec le conseil local de santé ?
De santé mentale, oui. L'objectif, c'est justement que le conseil local en santé mentale y porte des événements dont une partie peut-être à destination des partenaires et une partie aussi à destination du public, du grand public, notamment dans cet objectif de faire connaître les ressources et de parler de santé mentale de manière libre et déstigmatisée, encore une fois.
Ce n'est pas ce qui est proposé, ce n'est pas encore l'acte médical, donc c'est plutôt un libre-échange ou un libre-arbitre qui permet ces échanges. Mais est-ce qu'il y a la notion du secret médical qui entre en compte dans ce secteur ?
Ben oui, pour des parcours de soins, des parcours médicaux, bien sûr.
Oui, je parle pour des personnes, oui, effectivement, qui sont vraiment en souffrance, reconnues.
Oui, bien sûr, ça c'est tout un pan de la question, c'est les parcours de soins des personnes en souffrance psychique. Mais il y a aussi tout un autre pan de la question qui est, encore une fois, parler de santé mentale avec la population et se rendre compte qu'on est tous et toutes concernés par la santé mentale. C'est pas uniquement les usagers de la psychiatrie qui sont ciblés par ces questions-là.
Il est reproché parfois aux services médicaux d'opérer par chimie certaines problématiques, hein, au lieu de peut-être travailler la source de cette difficulté. Est-ce que c'est par manque de moyens ou alors par méconnaissance de ce domaine qu'est l'esprit humain ?
Alors là, encore une fois, je me positionnerai pas sur les réponses, puisque je ne suis pas professionnelle de santé et que les réponses, elles sont spécifiques à chaque besoin et à chaque personne. Ce que j'aurais envie de répondre, c'est effectivement la prévention, toute la partie de la prévention en santé mentale est déterminante et très importante pour protéger les personnes contre la survenance de problèmes de souffrance psychique. Et donc voilà, on revient à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, important de communiquer sur qu'est-ce que c'est la santé mentale et comment chacun prend soin de sa santé mentale pour, dans la mesure du possible, limiter ou éviter la survenance des problèmes de santé mentale.
Ce diagnostic opéré sur le DIWA, vous en avez certainement aussi eu des échos par rapport à ce qui se passe ailleurs, sur d'autres cantons. J'imagine que l'inquiétude est identique sur tous les territoires. Vous avez aussi pu échanger justement un peu votre mode de travail, la méthodologie justement pour déceler les problématiques et à savoir aussi, est-ce qu'il y a des similarités de problématiques sur chaque territoire ?
Oui, alors les conseils locaux en santé mentale, c'est des dispositifs qui existent partout en France et qui sont en train d'ailleurs de fortement se développer partout en France, notamment parce que cette question de la santé mentale devient prégnante partout en France. Donc oui, c'est des dynamiques territoriales qui ont des échos un petit peu partout sur le territoire français. Ensuite, sur les problématiques qu'on constate, la difficulté d'accéder à des professionnels de santé en santé mentale comme dans d'autres domaines, elle est malheureusement partagée par une majorité de territoires en France, ce qui peut faire la particularité de territoires comme le Diois, comme d'autres territoires ruraux isolés, c'est que quand les ressources ne sont pas présentes sur place, et elles sont difficiles à avoir sur place parce qu'on est un petit territoire et qu'on a moins de ressources très spécialisées en forte proximité, et dans ces situations-là, forcément, l'accès à ces ressources de santé, elles sont génératrices d'inégalités, puisque du coup, on aura des personnes qui, sur le territoire, sont en capacité d'aller chercher les ressources ailleurs, dans les grandes villes autour, et de se mobiliser pour y accéder, et d'autres personnes qui auront moins cette capacité. Et donc, ça va créer des inégalités dans l'accès aux soins qui sont importantes.
Dernière question, à l'inverse de ces difficultés de territoires ruraux, notamment, quels sont les secteurs où justement tout va bien et tout se passe à merveille pour les professionnels de la santé ainsi que les personnes?
Alors, où tout va bien, où tout se passe à merveille, je ne sais pas, mais en tout cas, le point fort dans le Diois, par exemple, ce qui est certain, c'est que il y a une forte interconnaissance des professionnels de la santé et du social, et une forte capacité à se mettre en lien et à gérer collectivement des situations, même si ça ne veut pas dire qu'on trouve des réponses facilement, systématiquement. Mais en tout cas, il y a un niveau de mise en lien qui est relativement important, qui est aussi lié à la taille du territoire, qui est un petit territoire où on se connaît facilement. Mais c'est un réel atout pour le coup, pour le territoire, même si ça ne suffit pas à répondre aux besoins.
Pour ces deux rendez-vous, comment peut-on, doit-on réserver d'ailleurs ? J'imagine que les places sont peut-être limitées dans la salle communautaire.
Alors oui, dans la mesure du possible, on a besoin de savoir qui viendra. Donc c'est sur inscription pour les deux rendez-vous. Le plus simple, c'est de confirmer sa participation par mail à l'adresse santémentale@paysdiois.fr. C'est le plus simple de se manifester pour qu'on puisse évaluer les participations.
Est-ce qu'il existe, mais peut-être que je dis une bêtise, sur un service internet, un moyen justement d'exprimer sa souffrance et d'être pris en compte, ou alors ça ne s'opère que par l'oral ?
Alors, au niveau national, il y a un certain nombre de dispositifs de type numéro d'écoute, plateforme d'écoute qui existent, qui peuvent être mobilisés par tous les habitants, les habitantes, pour en cas d'urgence ou en cas de souffrance. Donc ça, c'est la réponse, on va dire, professionnelle aux situations de santé mentale. Après, sur notre territoire, cette adresse mail, santémentale@paysdiois.fr, elle a été mise en place aussi pour recueillir les besoins, les témoignages, les avis dans le cadre de ce conseil local en santé mentale. Donc elle peut aussi être utilisée pour de la remontée d'informations.
Et pour connaître un peu plus aussi le comité local de santé mentale du Diois, il existe une page internet sur le site du paysdiois.fr.
Alors tout ça sera en ligne aussi sur le site de la communauté de communes du Diois. Les documents officiels de ce conseil local en santé mentale seront en ligne en attendant d'être validés par le comité de pilotage qui aura lieu début novembre. Donc d'ici la fin de l'année, tout ça ce sera disponible sur le site internet.
Sonia Rochat, je vous remercie d'être venue nous parler donc de ce comité local de santé mentale et ainsi de ces deux rendez-vous du 17 octobre et du 21 octobre à l'espace social culturel du Diois. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Yeah.